Et dans quelques secondes, il sera midi et demi. Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Alors que Paris est la grande couronne, mais aussi 8 autres métropoles en alerte maximale s'apprêtent à vivre une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur des couvre-feux à partir de minuit. Le gouvernement n'en a visiblement pas fini de devoir préciser les conditions de ces confinements nocturnes. En l'occurrence, ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit opposé à un assouplissement pour le monde du spectacle, comme l'avait pourtant suggéré la veille son homologue à la culture Roselyne Bachelot.
Quand la crise fait basculer dans la pauvreté des centaines de milliers de personnes supplémentaires.
Oui, hier, Jean Castex a confirmé qu'une prime de 150 euros serait bien versée à chaque personne bénéficiant du revenu de solidarité active. En revanche, et contrairement à ce qu'avait laissé entendre la veille le chef de l'État, les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, eux, n'y auront pas droit.
À l'étranger, direction tout d'abord au Japon.
Oui, le gouvernement a annoncé ce matin qu'il allait bientôt se prononcer sur l'avenir de l'eau contaminée qui s'est accumulée depuis bientôt 10 ans sur le site de la centrale de Fukushima. Et puis à Bruxelles, Angela Merkel a appelé hier soir à des compromis de part et d'autre pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit entre Londres et l'UE. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Thibaut Arroy, maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Si l'intervention mercredi soir du chef de l'État était destinée à redonner le cap de la vie avec le virus et mettre fin au tournis de la communication gouvernementale, il semble toutefois que certaines des nouvelles mesures prises pour lutter contre l'épidémie suscitent encore des interrogations, au point même de voir aujourd'hui des membres du gouvernement s'interpeller par médias interposés. C'est le cas en particulier de Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire, après que dans une interview au Parisien hier soir, la ministre de la Culture, relayant une demande des professionnels du spectacle, a plaidé pour un assouplissement des mesures en faveur du monde culturel, en l'occurrence pour que les spectateurs munis d'un billet de théâtre ou de cinéma puissent bénéficier le soir d'une dérogation, eh bien son collègue de l'économie, interviewé ce matin sur BFM, lui a clairement opposé une fin de non-recevoir. Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté et sa simplicité, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, si vous commencez à multiplier les exemptions, on ne va pas s'en sortir. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors si la règle du couvre-feu nocturne est effectivement un peu plus claire, se pose malgré tout la question de savoir comment le public pourrait-il être au rendez-vous dans une salle de théâtre ou de cinéma juste après le travail et en même temps pouvoir rentrer chez lui avant 21h. Seule certitude, les salles de spectacle jusque-là érigeant bons élèves avec zéro cluster recensé officiellement depuis la rentrée auront à peine eu le temps de se relever après plusieurs mois de fermeture qu'elles se retrouvent déjà à devoir encaisser un nouveau coup dur. Et puis à travers cet exemple donc pointe aussi Pierre, sinon un manque de préparation, à tout le moins une forme de précipitation dans les mesures annoncées mercredi par le chef de l'État.
Eh bien si l'annonce du couvre-feu dans les grandes métropoles n'a pas véritablement surpris mercredi soir, puisqu'elle était évoquée avant même la prise de parole du chef de l'État. C'est en revanche l'horaire du début de ce couvre-feu, 21h, qui a étonné les professionnels du transport, de la restauration, comme ceux du monde du spectacle, chacun expliquant ses difficultés avec cet horaire imposé. La question s'est d'ailleurs invitée hier en conférence de presse de Jean Castex, laissant le Premier ministre dans l'embarras.
Je réponds sur les billets de théâtre, là, que sujet à étudier. Enfin, je ne m'attendais pas à cette question, donc il faut qu'on l'étudie.
Il faut qu'on étudie cette question, dit Jean Castex, réponse qui laisse apparaître un certain flottement au plus haut sommet de l'État et dans laquelle se sont engouffrés les professionnels du spectacle qui réclament une dérogation, un assouplissement du couvre-feu à 21h, le billet de spectacle faisant office d'attestation. Leur parole est donc relayée dans la presse par la ministre Roselyne Bachelot qui revendique un statut de médiatrice entre le monde de la culture et le gouvernement. La règle du couvre-feu doit être claire et lisible, lui répond ce matin le ministre des Bruno Le Maire, qui s'oppose donc à toute nouvelle exemption au couvre-feu quand un conseiller ministériel se fait plus direct en off. Ce matin, le président n'est pas un amateur. Il a eu sur ce sujet, comme dans d'autres, sur la table. Et si l'on cède à un système dérogatoire, on ouvre la boîte de Pandore. Alors, y a-t-il eu discussion sur cette demande de dérogation au nom de l'exception culturelle? On peut vraiment s'interroger quand la ministre de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, explique de son côté qu'il n'y aura pas de dérogation pour le sport amateur. Nous devons, dit-elle, être responsables face à cette situation et soutenir le personnel médical.
Merci Pierre Neveu. Autre exemple de confusion au sommet de l'État, alors que le président Emmanuel Macron avait annoncé mercredi une aide exceptionnelle pendant 6 semaines de 150 euros, avec 100 euros de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. 24 heures plus tard à peine, voilà que l'exécutif a décidé de rétro-pédaler. Plus exactement, si les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement toucheront bien 100 euros par enfant, en revanche, ils ne recevront pas les 150 euros de base, contrairement donc aux allocataires du revenu de solidarité active. D'où la réaction ce matin chez nos confrères de France Info de Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, pour qui c'est beaucoup plus qu'un simple malentendu. Selon elle, vous allez l'entendre, cela montre surtout qu'il y a un oubli et un délaissement des jeunes par le gouvernement.
C'est une promesse non tenue, puisque quand le président s'exprime quand même, ses propos normalement font foi. Au-delà de ça, ça montre surtout qu'il y a un oubli, un délaissement des jeunes. On peut pas, il faut aller au-delà des discours. Nous, on en a un peu marre de l'apitoiement. C'est-à-dire que l'apitoiement et la compassion, c'est très bien. Mais par contre, si derrière, il n'y a pas d'acte, ben, ça ne sert à rien. Et concrètement, pourquoi c'est dur d'être jeune en 2020? Parce que on a un gouvernement qui, pendant plusieurs années, a baissé les APL, les a désindexés de l'indice de révision des loyers. C'est-à-dire que nos loyers ont augmenté, mais nos aides au logement ont été gelées et a gelé nos bourses. Donc, toutes ces mesures-là, elles nous ont précarisé déjà. Après, on peut pas nous dire « Ah, c'est dur d'être jeune en 2020 ». Bah oui, il faut faire des choses pour que ce soit pas dur d'être jeune en 2020.
Voilà, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, invitée de nos confrères de France Info ce matin. Et je précise qu'après le couac autour de cette aide exceptionnelle, un soutien effectif apporté aux jeunes précaires pourrait être annoncé demain par le Premier ministre Jean Castex à l'occasion de la journée de lutte contre la pauvreté. Au terme de 4 journées d'interrogatoire, l'audition de Nicolas Sarkozy par les juges chargés de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 avait pris fin lundi soir sans plus de commentaires. Et ce matin, on a finalement appris que l'ancien président avait été inculpé pour association de malfaiteurs.
Il n'y a pas que la guerre Suez-Veolia qui occupe en ce moment Engie.
Non, le groupe dont l'État est, rappelons-le, l'actionnaire de référence, a annoncé son intention de vendre l'une de ses activités, et non des moindres, Endel, spécialisée dans la maintenance industrielle. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, cette société s'occupe notamment de l'entretien de nos centrales nucléaires.
Oui, Endel, c'est environ 6000 salariés en France. Cette filiale d'Engie est l'un des grands sous-traitants du nucléaire. Elle travaille pour EDF ou encore Orano, ex-Areva. Elle a notamment participé à la construction de la quasi-totalité des réacteurs du parc français. Et puis, elle a aussi une activité de maintenance pour l'industrie. Elle travaille notamment pour des sites pétrochimiques, sidérurgiques ou encore pour l'industrie agroalimentaire. Engie souhaite donc se défaire de cette filiale dans le cadre de sa stratégie de recentrage validée par l'État actionnaire. À peine finalisée la vente de ses parts dans Suez, le groupe passe donc à la deuxième étape de son programme de cession d'actifs. Les syndicats ont appris la nouvelle mardi. Alors la direction assure qu'elle sera exigeante sur la qualité du projet du repreneur. Pas de quoi apaiser les craintes. Patrick Tirlemont est délégué syndical central Force ouvrière. Il travaille depuis 30 ans chez Endel.
On est marqué, on ne veut pas se cacher. Hein. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui va nous reprendre. Si on n'est pas vendu d'un bloc qui est la volonté d'Engie, est-ce qu'on sera revendu séparément? Ça, c'est notre grande crainte, parce que la partie nucléaire gagne de l'argent, la partie industrie perd de l'argent. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé, en fait. Si on est repris, qu'on bouge pas nos acquis sociaux, pourquoi pas? Maintenant, si on tombe sur un repreneur qui veut tout bouger, ça va plus être la même chose, en fait.
En tout cas, selon les informations communiquées au syndicat, l'objectif, c'est de finaliser cette vente au deuxième semestre de l'année prochaine.
Merci Anne-Laure Jumet. Les candidats à la reprise de Bio C'est Bon, placés en redressement judiciaire, ont rendez-vous aujourd'hui au tribunal de commerce. Plusieurs distributeurs ont déposé des offres a priori solides. Biocoop, tout d'abord, le leader du secteur et qui se prévaut du soutien d'élus locaux, mais aussi le groupe Zoari, franchisé du groupe Casino, actionnaire des surgelés Picard, et enfin le distributeur alimentaire de la Galaxie Muliez. Alors évidemment, il y a aujourd'hui une forme de paradoxe apparent à voir un distributeur alimentaire spécialisé dans le bio et en l'occurrence plutôt bien implanté en Ile-de-France, c'est-à-dire là où la demande est forte et croissante, à se retrouver en difficulté. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le distributeur aurait souffert des mouvements sociaux qui ont significativement affecté les centres-villes entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, mais aussi l'accroissement de la concurrence, sans oublier bien sûr l'épidémie de coronavirus. Enfin, l'enseigne aurait aussi aussi souffert de problèmes structurels. Si la lutte contre le gaspillage alimentaire peut médiatiser jusqu'à des lois récentes qui ont obligé la grande distribution puis les industriels à donner leurs invendus plutôt que les détruire a significativement progressé ces dernières années. En revanche, et à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui, l'ADEME rappelle que chaque Français continue de jeter annuellement 30 kilos de produits alimentaires, un véritable drame lorsqu'on sait qu'avant le Covid, déjà 9% de la population mondiale souffrait de la faim et qu'en France, le confinement a appauvri un quart des ménages.
Tout ça pour ça.
Oui, ou quand la libération récente au Mali de 200 prisonniers contre 4 otages, dont Sophie Petronin, libération négociée par le pouvoir malien avec un groupe djihadiste combattu par la France, parfois au prix du sang, laisse un goût amer dans les rangs militaires français. Hier, le général Lecointre, chef d'état-major, s'est même fait l'écho de l'incompréhension suscitée par les propos de l'ex-otage française, laquelle avait qualifié ses ravisseurs de militaires et de groupes d'opposition au régime. Ce sont des terroristes, a martelé le général Lecointre, et nous continuerons à les combattre. Bref, une semaine après la libération de Sophie Petronin, l'indignation Nathalie Hernandez ne cesse de monter au sein des armées.
Le visage fermé, le général Lecointre a mis hier les choses au clair devant les députés de la commission de la défense. Il est inacceptable de comparer les militaires français à ces terroristes affiliés à Al-Qaïda.
L'ennemi auquel nous sommes confrontés, c'est un ennemi terroriste dont l'objectif est clairement d'instaurer des régimes et des califats sur des territoires entiers et que nous luttons contre ces groupes terroristes qui par ailleurs ont des modes opératoires qui ne correspondent en rien au mode opératoire d'une armée régulière.
Les militaires français agissent dans le respect du droit international, ajoute le chef d'état-major des armées, et ils n'auraient jamais l'idée de prendre en otage des civils pour obtenir la libération de Français. Le général Lecointre a confirmé que la France n'avait pas été impliquée dans les négociations menées par Bamako pour libérer Sophie Petronin. Quant aux 204 détenus relâchés en échange notamment de l'humanitaire, selon nos confrères de Libération, au moins 29 d'entre eux ont bien été capturés par les soldats français de Barkhane, parmi eux des djihadistes de premier plan qui ont mené des attaques sanglantes contre des militaires maliens, comme cet attentat suicide en janvier 2017 à Gao qui avait fait plus de 60 victimes.
Le Japon va-t-il prochainement rejeter à la mer de l'eau contaminée issue de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima ? Le gouvernement devrait prochainement officialiser sa décision. Alors précisons tout de suite que toutes les centrales nucléaires du monde entier en réalité rejettent de l'eau contenant en l'occurrence du tritium et d'ailleurs dans des proportions souvent nettement plus importantes. Toujours est-il que cette solution au détriment d'autres scénarios fait actuellement polémique à Fukushima. Elle est notamment très contestée par les pêcheurs et les agriculteurs locaux qui redoutent que cela ne dégrade encore davantage l'image de leurs produits auprès des consommateurs. C'est une correspondance signée Yann Rousseau.
Le gouvernement japonais dit qu'il ne peut plus reculer, qu'il faut absolument prendre une décision, car il n'y a bientôt plus d'espace pour stocker cette eau contaminée sur le site de la centrale qui a été ravagée en 2011. Au total, il y a déjà sur place 1,2 million de tonnes d'eau dans des centaines de cuves géantes. Et chaque jour, il y en a un peu plus car des injections ont lieu en permanence pour refroidir les réacteurs détruits. Lorsqu'elle passe dans les ruines de la centrale, cette eau se contamine en éléments radioactifs et elle est ensuite pompée et nettoyée dans une usine de retraitement qui a été construite après la catastrophe. Le problème, c'est que l'un des 63 éléments qui polluent cette eau ne peut pas être éliminé par des filtres classiques, il s'agit du tritium. Et c'est cette eau tritiée que le gouvernement veut rejeter progressivement dans l'océan. Il planche en ce moment sur des rejets étalés sur au moins 20 ans. Il assure qu'il n'y a aucun danger pour l'environnement. De fait, cette eau au tritium est déjà relâchée dans la mer ou les fleuves par la plupart des centrales de la Terre. C'est le cas en France notamment. Et aucune étude n'a jamais prouvé la moindre dangerosité. Sur place, les pêcheurs ne contestent d'ailleurs pas ces faits scientifiques, mais ils craignent la réaction de l'opinion publique. Les mots Fukushima, eau contaminée font très peur et ils sont convaincus que ces rejets, même s'ils sont étalés dans le temps, vont encore nuire à leur réputation et faire s'effondrer leur vente de poissons.
En Italie, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 inquiètent de plus en plus. Encore près de 9000 cas enregistrés hier et 600 personnes en soins intensifs. L'Institut supérieur sanitaire évoque désormais une épidémie dans une phase aiguë. Quant au sommet, État-région, aujourd'hui, il pourrait prendre d'autres mesures plus restrictives. À ce titre, une région vient d'ailleurs déjà de s'illustrer, c'est la Campanie. Contrairement à ce que préconise le gouvernement, elle va fermer ses écoles pendant 15 jours. De quoi assurer d'ores et déjà la polémique. Explication à Rome, signée de notre correspondant Bruce de Galzin.
Il menaçait de prendre des décisions plus restrictives si le nombre de cas dépassait 1000 par jour. Hier, le président De Luca, le shérif, comme on le surnomme dans la région de Naples, a décidé la fermeture totale des établissements scolaires et universitaires. Une décision immédiatement commentée par le président du conseil, Giuseppe Conte, qui rappelle que la courbe des infections à l'école est très basse et que fermer ainsi les écoles en bloc n'est pas la meilleure solution. La ministre de l'Éducation, Lucia Azzolina, est moins diplomate.
C'est une décision très grave, une mauvaise décision totalement inappropriée. On a l'impression que le président De Luca s'acharne sur l'école. Il n'a pas seulement été le dernier à les ouvrir, mais maintenant le premier à les fermer. Alors qu'en Campanie, 0,075% des élèves ont été testés positifs au Covid et ne l'ont certainement pas contracté à l'école. La moyenne nationale est de 0,080%. L'école est l'endroit le plus sûr pour nos enfants et nos étudiants, et pas seulement du point de vue de la santé.
Car s'ils ne vont pas à l'école, certains jeunes sont livrés à eux-mêmes ou à autre chose dans la région de Naples, notamment, sous-entend la ministre, qui avec le gouvernement se garde le droit de déposer un recours devant le tribunal contre cette décision. Mais Lucia Azzolina rappelle aussi que ce n'est pas elle, en tant que ministre, mais bien les présidents de région qui ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les écoles.
C'est aujourd'hui que le Premier ministre britannique Boris Johnson doit donner sa position sur la suite à donner aux négociations commerciales post-Brexit, et ce, alors que le sommet européen débuté hier aura surtout donné lieu jusqu'à présent à un dialogue de sourds entre Londres et les 27. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors en réalité, même si c'est vrai, le Brexit aura assez largement phagocyté les débats, plusieurs autres dossiers d'importance, Angélique, étaient malgré tout sur la table.
Oui, avec en haut de la pile celui qui n'a pas donné lieu en fait à des déclarations officielles, mais qui a alimenté, on le sait, l'échange des 27 dirigeants avec le président du Parlement européen, David Sassoli, à savoir le futur budget pluriannuel de l'Union adossé au fameux plan de relance post-Covid, un plan dont les 750 milliards d'euros sont très attendus dans les capitales. Les eurodéputés menacent de bloquer son adoption si les 27 n'acceptent pas certaines rallonges financières sur des programmes comme Erasmus ou la santé. Mais rappelons tout de même qu'il a fallu 4 jours en juillet aux dirigeants pour se mettre d'accord à la virgule près sur ce budget, avec une bataille homérique avec les pays dits frugaux. Il n'y a donc pas de marge de manœuvre du côté du Conseil, et ça a été rappelé. On trouvera des ajustements techniques, mais qui porteront sans doute sur quelques milliards, entre 7 et 9, hein, selon les sources européennes, alors que les eurodéputés en réclament 39 de plus. L'écart est considérable.
Sur le climat également, on a évoqué cette question, ainsi que le Covid.
Oui, sur le climat et le pourcentage de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 auquel les Européens devront s'engager, hein, pour respecter leur objectif de neutralité carbone en 2050. Eh bien là-dessus, la décision a été repoussée au mois de décembre. 11 pays dont la France pousse pour que ce soit 55%. Le Parlement réclame 60%, mais les pays de l'Est, eh bien, freinent toujours des quatre fers. Hein. Certains de leurs dirigeants ont estimé hier que leurs industries n'y arriveront pas. On va donc encore en discuter. Sur le Covid, les 27 ont convenu d'accélérer là aussi leurs discussions au niveau des ministres, hein, pour une meilleure coordination des mesures de restriction. Ils ont désormais une carte commune des régions avec le même code couleur selon la gravité de la situation, mais il faut encore s'accorder sur le type de restriction, les quarantaines ou les tests qu'il faut appliquer aux voyageurs, et ça, eh bien, ce n'est pas gagné non plus.
Voilà, et puis sur le Brexit, cette fois-ci, Angélique, là, les Européens ont renvoyé la balle à Londres.
Oui, il reste déterminé, uni et continue, pardon, de considérer que Londres ne négocie pas de bonne foi. Alors ils ont déclaré qu'ils étaient assez inquiets et appelés à continuer les négociations. Voilà pour le message politique. Mais Angela Merkel, hein, dont le pays préside l'Union, a été, elle, plus claire dans son point de presse. Elle a invité Londres, mais aussi les 27, à faire des compromis pour débloquer cette situation. Et puis sur la pêche, hein, Michel Barnier, le négociateur en chef, a aussi ouvert la porte à des concessions lors de son point de presse. Pourrait donc bouger dans les prochaines semaines ou pas, en fonction de la position qu'adoptera Londres.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Et s'agissant justement donc de cet interminable feuilleton du Brexit, invité de la rédaction aujourd'hui, Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, Angélique l'évoquait à l'instant, depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté donc l'UE le 31 janvier dernier, les pourparlers avec Bruxelles patinent plus exactement. Les négociations ont permis de rapprocher les points de vue sur certains thèmes, comme la protection sociale des citoyens ou les transports. En revanche, elles achoppent toujours sur trois sujets principaux, on les rappelle. Les droits de pêche, les questions de gouvernance, et notamment les mécanismes de règlement des litiges, et puis la garantie de règles du jeu équitable en matière de concurrence. Sur ces trois sujets, les deux parties s'accusent aujourd'hui mutuellement de laisser planer le risque d'un no deal. Selon vous, est-ce que l'on a une chance, malgré tout, de voir enfin les deux camps s'entendre pour un accord de libre-échange ?
Alors, c'est toujours un peu difficile de dire ce qui va se passer dans l'avenir, et on est en effet dans le cœur des négociations, et normalement même plutôt vers la fin, puisqu'il était question de trouver un accord avant, en tout cas, la fin du mois d'octobre pour pouvoir le faire ratifier au Parlement. Et on voit que les deux parties là sont dans un grand jeu de bluff peut-être sur la position à adopter dans cette dernière ligne droite. On peut avoir l'espoir quand même qu'un accord soit trouvé. C'est une porte que l'Union européenne a laissée ouverte, disant qu'il négocierait jusqu'à la fin, hein, et qu'il n'était pas question de renoncer à ces négociations. Du côté britannique, il semblerait y avoir un peu plus de réticence. On avait normalement cette date limite aujourd'hui, hein, pour trouver un accord. Finalement, peut-être que Boris Johnson acceptera de continuer à négocier. En tout cas, c'est ce à quoi les 27 l'ont appelé.
Où se situent aujourd'hui les marges de manœuvre ?
Alors, on voit que, pour l'instant, par exemple sur la pêche, on a pu entrevoir que des concessions de la part de l'Union européenne ou de certains États de l'Union européenne, notamment la France, qui seraient prêtes à faire quelques concessions. On pense que dans d'autres domaines, il pourrait en être de même, notamment pour le commerce. Mais ça reste encore très flou, et évidemment, on ne saura qui fait des concessions qu'au moment où on verra l'accord final.
Hier soir, face donc à la menace d'un no deal, la chancelière allemande a appelé à des compromis de part et d'autre, donc pour débloquer les négociations, mais pas à n'importe quel prix, a précisé Angela Merkel. Aujourd'hui, qui au fond a le plus à perdre dans ce bras de fer ?
Bon, ben c'est indubitablement le Royaume-Uni qui a le plus à perdre dans l'absence d'accord, et donc c'est du côté du Royaume-Uni que se trouve les plus grands enjeux. C'est à eux certainement qu'il reviendra de faire les plus grandes concessions dans les semaines à venir, dans les jours à venir, parce que c'est en cas d'absence d'accord, c'est ceux qui perdront largement. Il faut rappeler que le bloc 27 est évidemment bien plus important que le Royaume-Uni, qui se retrouverait isolé de son côté.
Vous évoquiez à l'instant justement le bloc 27. C'est vrai que dans ce dossier, on oppose généralement le Royaume-Uni d'un côté et Bruxelles de l'autre. Sauf que les 27 États membres de l'UE sont-ils véritablement unis ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en 2016, juste après le vote du Brexit, les 27 États membres ne se sont pas divisés, ce qui est un exploit. Et ce qui a une véritable unité, je pense que il peut y avoir un intérêt plus fort pour de certains États pour certaines questions. C'est évident que la Hongrie n'a peut-être pas les mêmes intérêts quand il s'agit de la pêche que la France, mais tout simplement pour des questions géographiques, etc. Mais en tout cas, depuis 2016, depuis le début de ce long processus de négociation, Michel Barnier, le négociateur en chef, a réussi à maintenir l'unité des États, et pour l'instant, en tout cas, cette unité tient.
C'est vrai que s'agissant de la pêche, il faut le rappeler que seule une petite dizaine en réalité de pays sont concernés par ce dossier.
Oui, tout à fait, oui. Oui, ce sont principalement les États qui ont une côte et puis des eaux territoriales qui touchent celles des Britanniques. Mais en tout cas, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui négocie. Et ce que l'Union européenne veut continuer à faire, c'est négocier l'ensemble des trois domaines que vous aviez évoqués tout à l'heure en bloc, et non pas faire des mini-accords séparés. En tout cas, c'est la position jusqu'à présent.
Vous le rappeliez tout à l'heure, Boris Johnson avait fixé donc à hier la date butoir pour un accord. Il doit exposer cet après-midi son approche pour la suite du processus. Que faut-il espérer de ce Premier ministre britannique qui jusque-là aura surtout fait montre d'une inflexibilité à toute épreuve ?
Oui, alors c'est vrai que l'attitude de Boris Johnson est difficile à lire, et celle de son négociateur, hein, David Frost, ne l'est pas plus. Il faut tout envisager avec lui. Néanmoins, je pense qu'il a quand même conscience que les risques d'un no deal sont énormes pour son économie, qui est par ailleurs durement touchée par la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle. Donc, est-ce que éventuellement il serait prêt à assouplir un petit peu sa position que vous avez, comme vous l'avez dit, hein, qui est très stricte depuis le début de son mandat. On peut envisager que il puisse en effet revenir ou en tout cas accepter de négocier un peu plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Je pense pas néanmoins qu'il accepte de revenir sur le changement possible de la fin de la période de transition. Ça, c'est maintenant trop tard pour l'espérer. Mais on pourrait éventuellement penser que un accord assez souple soit signé, avec la possibilité de revenir sur un certain nombre de points dans l'avenir, alors que ça soit pas un accord définitif, mais peut-être simplement un accord cadre avec ensuite des assouplissements possibles dans le futur. Mais ça, il faudrait que l'Union européenne soit aussi d'accord pour l'accepter.
Merci Thibaut Arroy, maître de conférence, je le rappelle, en civilisation britannique à l'université Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Après 10 jours de révolte populaire déclenchée par les élections législatives truquées du 4 octobre dernier, le président kirghize avait encore assuré cette semaine qu'il ne démissionnerait pas tant que son pays ne serait pas revenu sur le chemin de la légalité. Sauf qu'hier, il a finalement jeté l'éponge, laissant son principal rival, un nationaliste tout juste libéré de prison et nommé au poste de Premier ministre, désormais seul maître à bord, le tout sous l'œil effaré des deux puissances tutélaires régionales, la Russie et la Chine, totalement dépassées donc par les événements, de quoi ouvrir évidemment une nouvelle ère d'incertitude dans ce petit pays d'Asie centrale déjà notoirement instable. On termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi, généralement gris et humide, à l'exception des régions méditerranéennes où le soleil sera largement prédominant. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Cécilia Arbonin pour le prochain journal de la rédaction.